premier temps ce matin d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la bande dessinée, alors que France Culture vous propose chaque soir, cette semaine, un feuilleton radiophonique tiré de l'œuvre d'Hergé, Le Lotus Bleu. Demain, notre documentaire conçu par Victor Massé de l'Épinay et réalisé par Séverine Cassard nous décrira par le menu un numéro du journal Pilote, le numéro 595, celui d'avril 71, grâce aux témoignages de Mézières, de Bilal, de Lecomte, de Solé, de Jean-Christophe Menu et de Pascal Horry. Mercredi, nous nous promènerons dans l'exposition Hergé au Grand Palais à Paris et jeudi, nous parlerons de bandes dessinées historiques. Mais ce matin, nous allons croiser deux itinéraires, celui d'un bibliothécaire devenu historien de la bande dessinée, Jean-Pierre Mercier, et celui d'un apprenti historien devenu scénariste de bande dessinée, Chris. Mais tout de suite, comme chaque lundi, un nouvel épisode de la Fabrique de la Guerre Froide, concocté par Anaïs Quin et Françoise Camard. Aujourd'hui, 48e épisode de la Fabrique de la Guerre Froide.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které se připravuje.
Товарищи делегаты, уважаемые гости. 27e siège KPSS.
La guerre de Corée se poursuit sous la conduite du général Walker et du général Dean, héros des combats de Taiwan.
In defense of our own security and of the entire Western Hemisphere. And under the authority of the
Supreme. Dotyczyły one spraw bardzo ważnych. Rozmawialiśmy tak jak Polacy.
Let me ask you one simple question. Do you place and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
À Varsovie, de profonds bouleversements politiques s'accomplissent. Au milieu d'une fièvre générale qui agitait toute la nation, des étudiants aux ouvriers, le comité central du Parti communiste polonais a réintégré et replacé au comité central son ex-leader Gomulka, qui en 1951 avait été emprisonné pour déviationnisme. Hier, Oni, Gomulka prend aujourd'hui la seconde place dans la politique de son pays. C'est après Poznan une nouvelle phase de la crise des satellites de Moscou. Et c'est dans l'histoire de la Pologne un nouveau chapitre qui s'ouvre.
La mort de Staline et la politique de détente de Khrouchtchev qui lui succède voient s'épanouir un réformisme communiste dans les républiques socialistes du bloc de l'Est. Pour un temps, la Pologne se libéralise et l'Union soviétique de Khrouchtchev doit négocier pour éviter de reproduire le choc de la répression de Budapest en cours au même moment. Jean-Yves Potel.
Entre, disons, juillet et octobre, la légende Gomulka monte. Parce que Gomulka, lui, dit rien. Mais tout le monde va le voir. Les durs comme les libéraux. Et ce qui est aussi important, c'est qu'au niveau international, ça chauffe aussi. Les Chinois, par exemple, apportent leur soutien aux réformes en Pologne. Et les Yougoslaves, Tito. C'est aussi l'époque où Khrouchtchev commence à vouloir s'ouvrir vis-à-vis de tous ces pays. Donc, le 17 octobre, il y aura un nouveau plénum du comité central. Et là, on réhabilite complètement Gomulka. Il rentre dans la direction du comité central. Et dès le 21 octobre, Gomulka fait un discours programmatique à la radio. Il annonce des mesures de libéralisation qu'il va faire ensuite devant un énorme meeting qui aura lieu le 24 octobre, qui est resté célèbre, qui est le plus grand meeting historique. Il y a 400 000 personnes où Gomulka arrive, s'adresse aux Polonais en leur disant « camarades, citoyens », ce qui est très intéressant, « citoyens, il faut aujourd'hui changer beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs ont été faites dans ce pays et il développe des idées de libéralisation du point de vue du système économique, libéralisation du point de vue de l'expression, c'est-à-dire il va y avoir des relations avec l'Église, et aussi de réhabilitation de toute une série de personnages qui avaient été mis en prison et qui étaient des soldats ou des cadres de la résistance non communiste, ce qu'on appelle l'armée intérieure, l'armée nationale. Il y en avait beaucoup en Union soviétique qui vont revenir d'ailleurs après novembre. Il y a toute une série de gestes comme ça qui sont si importants du point de vue de la mémoire. Donc vous avez à la fois des mesures sociales, des mesures nationales, mémorielles, qui vont créer un espèce de grand enthousiasme dans le pays et une énorme mobilisation. Des journaux, des mouvements étudiants et tous les gens qui vont être actifs dans cette période, notamment beaucoup de jeunes, vont devenir ensuite les principaux animateurs de Solidarność, de la dissidence, etc.
Donc c'est à la fois un moment où tous les anciens cadres polonais qui avaient été relégués par les soviétiques au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale reviennent et les nouveaux cadres apparaissent aussi à faveur de ce mouvement.
Il y a un mouvement étudiant qui commence tout de suite, dès le début de l'année 56. C'était les étudiants communistes, mais ils avaient par exemple deux animateurs qui sont devenus très célèbres ensuite, un qui s'appelait Jacek Kuron, qui était un jeune animateur des scouts polonais, et un autre qui était un étudiant en histoire, c'était Karol Modzelewski. Il y avait un autre assistant en histoire qui était Krzysztof Pomian. Il y avait un autre plus philosophe qui était Leszek Kołakowski. Bon, c'était ces gens-là, les jeunes, vous voyez. Ils ont organisé un mouvement plus radical. Kuron disait toujours que quand il a entendu Gomulka parler le 24, il a senti absolument cet enthousiasme. Mais il a compris aussi qu'on n'allait pas lui faire confiance complètement. Parce que il sentait qu'il allait passer un compromis avec les Soviétiques qui aboutirait probablement pas à ce qu'il promettait. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé ensuite. Mais il y a eu aussi un mouvement ouvrier très important avec un homme qui est resté très fameux, qui s'appelait Leszek Godzik, qui était un leader des ouvriers de l'usine Zeran à Varsovie, qui est devenu ensuite pêcheur dans la mer Baltique. Le mouvement de 56 en Pologne, ça va être à la fois sa force, mais aussi sa faiblesse. C'est un mouvement qui a comme aspiration fondamentale de construire un socialisme démocratique. Donc cette population qui a été humiliée d'une certaine manière après la guerre parce que les communistes ont imposé un pouvoir de façon très autoritaire et on leur a volé leur libération. Aujourd'hui, en 56, ils retrouvent leur propre liberté, elle est précieuse pour eux. Et donc, c'est là-dessus que va jouer Gomulka. Il va jouer par toute une série de manœuvres. Et petit à petit, il va reprendre en main l'appareil. Il va placer ses hommes. Il va reprendre en main la presse. Donc 57-59, c'est toutes les mesures difficiles où ils vont commencer à reprendre en main du point de vue policier y compris. Ils vont arrêter, ils vont taper sur les dirigeants étudiants, et ils vont les emprisonner, les juger, etc.
Donc ils répriment les leaders du mouvement qui l'ont mené à revenir au pouvoir.
Ça va être un processus long, mais subtil. Mais je crois que les personnages comme Gomulka ou comme Kadar en Hongrie, ce sont des personnages shakespeariens, ce sont des traîtres à 100%. Ils ont trahi trois fois leurs amis. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils ont des amis très proches qui les ont sortis de prison, qui vont remettre eux-mêmes en prison. Donc Gomulka, sa trajectoire est pathétique, mais c'est celle d'un traître.
Voilà pour ce numéro 48 de La Fabrique de la Guerre Froide, préparé et réalisé par Anaïs Quin et Françoise Camard, un numéro que vous pouvez télécharger séparément du reste de l'émission pour garder avec vous l'ensemble de cette série. Bonjour Jean-Pierre Mercier.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous pour évoquer et pour ouvrir surtout cette semaine consacrée à l'histoire de la bande dessinée à l'occasion en particulier d'une grande expo Hergé dont nous parlerons mercredi et donc qui se tient au Grand Palais à Paris, mais aussi de la publication, de la sortie sur les antennes de Radio France d'une série de feuilletons donc consacrée au Lotus Bleu, l'adaptation en radio du Lotus Bleu de ce même Hergé. Comment devient-on un historien de la bande dessinée, Jean-Pierre Mercier, quand on est bibliothécaire, comme vous l'étiez il y a quelques dizaines d'années ?
Il n'y a pas de filière, il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Donc on fait comme tout le monde, on cherche.
Sur le tas.
Moi, c'est ce qui m'a entraîné à devenir collectionneur. Mais je ne suis pas le seul, parce que beaucoup d'auteurs de bande dessinée disent ça aussi. C'est quand on voulait... Quand on voulait se faire une documentation, on avait entendu parler vaguement d'un auteur ou d'une revue ou en fait, il n'y avait pas d'ouvrage où puiser, donc on allait directement chez les libraires d'anciens. Moi, j'ai un souvenir absolument ému de Futuropolis, rue du Théâtre dans le 15e arrondissement, qui était une espèce de caverne d'Ali Baba absolument incroyable. À l'époque où on trouvait tout, donc on feuilletait des vieilles revues, des vieux albums. Et puis il y avait quand même quelques bouquins. Alors il y a eu le bande dessinée figuration narrative, cet album qui a été la bible de beaucoup de gens pendant assez longtemps parce qu'il n'y avait pas grand chose. Quand on le relit, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'approximations, même si ça a été fait par des gens tout à fait sérieux. Je pense à Pierre Coupry, par exemple, qui était un historien de formation, qui connaissait l'Antiquité grecque et romaine.
Ça date de 67, ça,
ouais,
c'est ça?
67, c'était c'est l'expo du Musée des Arts Décoratifs.
Sur laquelle Anaïs Quin avait conçu un documentaire qu'on a rediffusé cet été, d'ailleurs, dans la Fabrique de l'Histoire.
Absolument, et qui était très bien. Et donc, voilà. Et Et petit à petit, au gré des années, des expositions, il y a des gens qui s'y sont collés. Moi, en fait, au bout de quelques années, je suis arrivé à Angoulême et j'ai participé à la création de ce qui est maintenant la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. J'avais la charge de créer la bibliothèque. Donc, toute la documentation qu'on a pu récupérer. Je l'ai lu. Peut-être un peu moins maintenant parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mm-hmm. Mais donc, c'est justement récupérer. Alors, les livres en français, bien sûr, mais aussi les livres en anglais, quelques langues. Quand je connais à peu près le sujet en italien, si je vois à peu près de quoi il est question, je peux me débrouiller. Je dis pas que je comprends tout dans le détail. Mais... Donc voilà. Et puis on se fait. Et puis soi-même, on rencontre des gens, on rencontre des auteurs, on rencontre des spécialistes d'autres pays, des États-Unis, d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne. Et puis il y a un petit réseau qui se crée comme ça, ce qui fait que moi, quand j'ai commencé, par exemple, la Vulgate, c'était la bande dessinée née aux États-Unis en 1892 avec le Yellow Kid dans le New York Herald. Non.
Et alors, justement, né quand ?
Alors, c'est un processus permanent, l'histoire. Hein. C'est pas vous, Emmanuel, que je vais raconter ça. Mais là, pour l'instant, on est tous à peu près d'accord pour dire que... moi, j'en profite pour dire que je ne me considère pas comme un historien.
Hein. On vous considère comme un historien.
On est tous à peu près d'accord pour dire que c'est Rodolphe Töpffer, donc notre ami Rodolphe, en 1833, avec les premiers bouquins qu'il a fait à Genève, qui sont effectivement Monsieur Jabot, Monsieur Vieux-Bois, Monsieur Pencil, Monsieur Cryptogame, qui sont considérés comme les premières bandes dessinées de forme moderne.
Parce que ce sont des cases qui se succèdent avec un texte qui n'est pas dans des phylactères en l'occurrence à ce moment-là, mais qui est
un texte en dessous.
En dessous de ces cases et qui d'une certaine façon sont une sorte d'innovation, même si il a été repris par d'autres, mais tardivement. Il y a Cham qui reprend certaines de ces histoires et qui les transforme en histoire française d'une certaine façon dans la presse de la période de Louis-Philippe.
Mais il y a l'éditeur français, je suis un mauvais historien parce que le nom m'échappe, mais qui fait un piratage direct de Töpffer tout de suite. Tout de suite, ça a du succès, donc on le reprend, le copyright, tout ça, on s'assoit dessus. Et puis Cham fait effectivement, reprend ça, redessine tout ça. Et puis Cham est le premier à faire un modèle très très proche de Töpffer qui s'appelle Monsieur Lajaunis dans une collection qui s'appelle la collection des Jabots, parce que le premier bouquin de Töpffer qui a été traduit, c'est l'histoire de Monsieur Jabot, et donc c'est devenu la collection des Jabots.
Alors certes, c'est 1830, 1840 qu'on peut, c'est à cette date qu'on peut dater le début de ce qu'on appellera plus tard la bande dessinée, mais néanmoins il y a des grands sauts puisque il faut plutôt attendre justement la fin du 19e siècle pour que se développe de façon presque industrielle cet art de la bande dessinée.
Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, Töpffer, c'est un précurseur et une exception, parce que lui, il fait de la bande dessinée en livre. Alors que la bande dessinée, elle va se développer dans les revues, dans les journaux. Alors là, en ce moment, depuis des décennies, on nous bassine avec l'époque des médias, mais la première explosion, la presse, c'est la deuxième moitié du 19e, avec l'industrialisation de l'impression, la fabrication du papier, enfin toutes ces choses-là. Et dans la presse, dans la presse sérieuse, il y a des gens qui font des petits dessins, puis de temps en temps, ils font des petits dessins en séquence. Et puis, il y a toute la presse satirique, il y a des dizaines et des dizaines de titres. Et dans cette presse, il y a de la bande dessinée partout, sauf qu'elle n'est pas repérée comme telle.
Incertitude sur la date de naissance de ce 9e art, comme on dit. Incertitude aussi sur les lieux de naissance de ce 9e art. Vous êtes spécialiste vous-même, Jean-Pierre Mercier, de la bande dessinée américaine. On sait combien il y a des débats sur l'endroit où naît, justement, cette bande dessinée moderne de la fin du 19e siècle. Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est les États-Unis? Il y en a même qui vont chercher du côté du Japon pour pouvoir trouver les ancêtres des premiers mangas du côté d'Okusai. Et on voit bien qu'il y a là, comme le dit d'ailleurs dans le très bon art de la bande dessinée chez Citadel et Maslow auquel vous avez participé, on cite Scott McCloud, nos efforts pour définir la bande dessinée s'inscrivent dans un processus sans fin et qui ne s'arrêtera pas de sitôt, dit-il.
Oui, mais parce que je pense que c'est vrai pour d'autres domaines de l'histoire de la culture et même de l'histoire en général, c'est-à-dire en cherchant sur l'objet, on se rend compte qu'il est infiniment plus complexe que ce qu'on avait imaginé au départ. Les premières définitions de la bande dessinée qu'ont faites les spécialistes américains, il fallait qu'une bande dessinée, il y avait des cases, des bulles, de la couleur, une narration et un héros. Non, finalement, parce qu'il y a des bandes dessinées en noir et blanc, Töpffer c'est en noir et blanc, il n'y a pas de cases. Et donc, il y a par exemple certains spécialistes américains qui ont disqualifié Töpffer à cause de ça.
Et c'est vrai qu'à un certain moment, c'est ce que dit Thierry Ganschlin dans ce livre, donc sur l'art de la bande dessinée, à vouloir cantonner trop précisément l'art de la bande dessinée dans un domaine très précis, au bout du compte, on laisse en dehors de la bande dessinée tout un tas d'auteurs qui font pourtant partie de cet art-là.
Absolument. Et puis moi, en fait, plus ça va, plus je suis accueillant d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on pousse un peu loin, le panel cartoon, enfin le gag en une seule case, en une seule image, je sais pas, le prototype, c'est pour les auditeurs qui sont pas trop spécialistes, ce serait, je sais pas, Denis la menace ou des choses comme ça, le petit dessin comme ça tout seul. Moi, ça me va bien, j'aime bien, parce qu'en fait, on peut imaginer ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Et pour les auteurs, je pense que, en particulier au 19e, au début, pour un auteur, on a par exemple dans le musée une superbe collection de Carandache. On a des centaines de pièces, c'est un très très bon dessinateur, vraiment, c'est un maître. Mmh. Et de temps en temps, il fait des dessins tout seul, et puis de temps en temps, il va prendre une idée, puis la développer en quelques images. Je suis pas sûr qu'à l'époque, pour lui, et pour ses collègues, il y avait une vraie différence. Je sais pas, pensons à Cabu, quand dans Le Canard Enchaîné, il faisait ses petits dessins, et puis il faisait l'histoire du beauf. Mmh. Pour les lecteurs, est-ce qu'il y a une vraie différence? Je suis pas si sûr que ça. Donc, on peut être très accueillant. Et puis, au 19e aussi, il y a une production parallèle, qui est par exemple, les images d'Épinal. On a une production populaire de grandes feuilles comme ça aussi en Allemagne avec les Fliegen de Blatter. Donc, ça pose toujours la question du centre et de la périphérie, de la circonférence.
Et c'est bien cette indéfinition justement d'une certaine façon.
Moi, ça me plaît bien. Parce qu'en fait, on peut se balader dans tout ça avec une grande liberté, hein, et beaucoup de plaisir. On découvre tout le temps des choses. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que l'histoire de la bande dessinée, c'est une science assez jeune, à la quoi elle a 50 ans à tout casser. Et donc, il y a encore plein de trucs à découvrir. Moi, je suis allé en Corée, je suis tombé sur des spécialistes coréens qui m'ont expliqué que la bande dessinée était née en Corée.
ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous êtes à la fois un acteur et un historien, d'une certaine façon, de cette légitimation de la bande dessinée, puisque vous êtes d'abord un amateur de fanzines, Jean-Pierre Mercier, vous travaillez dans des fanzines, vous êtes journaliste, et puis ensuite vous êtes embauché justement...
Éditeur,
vous êtes embauché par ce qui va devenir le Centre International de la Bande Dessinée à Angoulême, où vous êtes maintenant, depuis longtemps, donc chercheur associé, vous êtes associé aux travaux, justement, de légitimation de cette bande dessinée en concevant des expositions, en écrivant des livres savants sur cette question-là. Et en même temps, vous l'avez vu se légitimer, cette discipline. C'est-à-dire que, comme la cinéphilie, vous êtes comme un Bertrand Tavernier qui aurait participé à la fois en tant qu'auteur à continuer l'art, d'une certaine façon, et en parallèle à le légitimer en faisant des grandes histoires du cinéma, comme tous les auteurs des années 60 ou 70 qui participaient soit au MacMahon, soit au Cahier du cinéma pour la cinématographie.
La comparaison avec Bertrand Tavernier est un peu écrasante, mais il me semble que c'est un peu normal pour tous les... Enfin, c'est le processus, ce que vous décrivez, c'est le processus pour tout, me semble-t-il, pour toutes les productions populaires qui gagnent une certaine légitimité en musique. On peut parler du jazz ou du rock. Enfin, moi, depuis une trentaine d'années, je vois effectivement des historiens. Il y a des dictionnaires, des encyclopédies qui sont sortis. La première génération, c'est des fans alors on peut penser à Langlois, hein, qui a entreposé des centaines et des centaines de bobines de films. Aux États-Unis, il y avait Bill Blackbird. Je parlais de Pierre Coupry tout à l'heure. On a récupéré le fonds qu'il a laissé à sa mort. Son appartement était littéralement, mais quand je dis littéralement, c'est absolument pas une vue de l'esprit. Daniel Alexandre Bidon, qui est une historienne qui a géré tout ça, peut en parler, mais qui était une amie de Pierre Coupré, qui s'est retrouvée à sa mort à devoir s'occuper de tout ça. C'était un océan de livres et de papiers. Il y en avait absolument partout. On a récupéré la partie BD, parce qu'il s'intéresse à plein de choses, c'est 5 mètres cubes. Et c'est quelqu'un qui prenait les bouquins et qui, pour ses conférences, faisait des diapos toutes les semaines. Donc on a récupéré 30 000 diapos, 5 mètres cubes de papier. Et donc ça, c'est la première génération. Coupry, lui, était un historien, mais son rapport à la bande dessinée, c'est justement d'essayer de créer les conditions d'un savoir de base. Il a fait ce travail, mais tout le monde avançait un petit peu dans le noir. Ça, c'est la première génération. La deuxième génération, c'est, j'irais peut-être la mienne, intermédiaire. Moi, mon camarade Thierry Grandstein, qui est historien aussi, sans doute plus que moi, était journaliste au départ. Moi, j'étais éditeur, j'étais fanzineux. Enfin, on a appris sur le tas. On s'est retrouvé à apprendre aussi sur le tas un certain nombre de méthodes. Et puis là, moi, je vois arriver des jeunes et moins jeunes étudiants qui font des recherches sur le 19e siècle, sur la place de la femme dans la bande dessinée, sur la bande dessinée dans l'Afrique subsaharienne, enfin des trucs complètement incroyables. Et là, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes étudiants qui ont une vingtaine d'années qui arrivent, et je me dis, ça va être formidable. Dans quelques années, le saut qualitatif et la quantité de choses qu'on va apprendre, ça va être formidable.
Et pourquoi ? Parce que vous pensez que ce travail lent et patient que vous avez mené en tant qu'amateur, vous-même devenu professionnel et historien de la bande dessinée sans même le voir venir d'une certaine façon, va être entre guillemets sublimé par ceux qui, historiens eux-mêmes, vont rentrer, venant de l'université, avec des outils et des bagages universitaires, dans ce domaine qui est le vôtre, et ça va se croiser, ça va se féconder comme
moi,
regard.
Je pense et j'espère. Ben, c'est un peu la même chose que quand on discutait avec les spécialistes américains, quand j'étais infiniment plus jeune, et qu'on parlait justement du Yellow Kid. Pour eux, c'était une vérité d'évangile. Enfin, il n'y avait pas de discussion par rapport à ça. C'est 1892, etc., etc. Et quand on a commencé, le Yellow Kid est un moment important de la bande dessinée américaine, évidemment, mais il y a eu plein d'autres choses. On peut parler de Frost, enfin, on peut parler de plein de gens, et on peut aussi parler de Topfer, parce que, par exemple, Rodolphe Topfer, on a redécouvert qu'il avait été traduit en 1842. Monsieur Vieux-Bois, Obadiah Holbuck, il y a eu une première traduction en 1942. Aux États-Unis. Donc, il y a eu l'influence de la bande dessinée européenne aux États-Unis à partir de 1842, qui est une chose qu'on a totalement oubliée. Il y avait des traces écrites de cette affaire dans des études assez anciennes, mais ça a été. Donc, ce travail est permanent, en fait.
Et le dialogue, mettons, franco-belgo-américain, justement, est-il aussi fécond quand on le regarde comme historien de la bande dessinée américaine, comme vous le dites, parce que effectivement, il y a toujours cet échange, un peu comme pour le cinéma, à savoir si les accords Bloom-Burns à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont favorisé la naissance de la nouvelle vague par la cinéphilie qui s'est développée, la volonté de ces cinéphiles qui s'appelaient François Truffaut ou Jean-Luc Godard d'aller chercher des maîtres de l'autre côté des États-Unis qui s'appellent Hitchcock ou Ward Hawks, et donc de rénover la formule du cinéma français par des apports venant de l'autre côté et retransformant le cinéma français sous cette influence-là. Est-ce que c'est la même chose pour les États-Unis de la bande dessinée et ce regard croisé que peuvent avoir auteurs de bande dessinée français ou belges et auteurs de bande dessinée américain?
Ben, je crois qu'on peut pas comprendre l'histoire de la bande dessinée en France et même en Belgique sans la bande dessinée américaine. Enfin, l'exemple type, c'est, on parlait d'Hergé tout à l'heure, Hergé qui dit que le nez de Tintin, il l'a piqué dans Bringing Up Father, enfin dans la famille Lico, le Jiggs. Le Tintin, c'est ce nez-là. Hergé l'a vu, il a dit oh, c'est formidable, je le pique tout de suite. On peut pas comprendre Franquin sans Disney, on peut pas comprendre Maurice sans Disney non plus, on peut pas comprendre et génération après génération. Ben, je me souviens d'avoir discuté avec Raymond Poivet, qui était le grand dessinateur, entre guillemets, réaliste. Voilà, le pionnier de l'espérance d'après-guerre. Et on parlait de la bande dessinée française. Il faisait une exception. Il aimait beaucoup René Giffet, mais il disait tout le reste, je m'en foutais complètement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les Américains. Bon, et je pense que génération après génération, jusque dans les années 70-80, Pilote, ça a quand même été une sacrée surprise pour beaucoup d'auteurs. Faut pas oublier que Giraud, par exemple, avait reçu le Shazam, je sais plus quel prix aux États-Unis pour Blueberry. Donc, que des Américains récompensent un Européen pour un Western, fallait vraiment que ce soit du solide. Et puis, il y a eu après L'Écho des Savanes et surtout Metal Hurlant. Enfin, qu'une revue française Metal Hurlant devienne heavy metal aux États-Unis et que quelqu'un comme Moebius, alors Moebius, c'est l'auteur qui est l'auteur français qui est connu dans le monde entier. Quand on discute avec des amateurs de BD où qu'on aille, Moebius, c'est le nom que tout le monde connaît. Et Hergé aussi, évidemment, mais pour cette période-là, cette époque-là. Donc à partir des années 60-70, il y a un dialogue qui est extrêmement riche en ce moment. Il y a beaucoup d'échanges entre des auteurs américains et des auteurs européens, plus uniquement français. Mais il y a des auteurs américains avec qui on a pu discuter qui disent que ils vendent autant en chiffres, hein, je ne parle pas en, en pourcentage, ils vendent autant sur le marché français que sur le marché américain. Donc
l'analyse, le rapport avec la cinéphilie est assez fort, oui, puisque oui, effectivement, on sait combien des auteurs américains de films un peu d'exception ou un peu d'art et d'essai, dirons-nous en France, ont trouvé une sorte de salut dans le marché français du cinéma des années 60, 70 ou 80, alors qu'ils étaient assez peu écoutés chez eux, et que ça peut être un peu la même chose pour la bande dessinée.
C'est pareil en France, mais je pense que c'est un trait français, c'est peut-être aussi un trait européen d'être capable d'aller chercher dans cette immense culture où il y a le pire et le meilleur. Les pépites et de les récupérer et d'en faire quelque chose. Ben, vous parliez d'Hitchcock tout à l'heure dans le cinéma, il est complètement évident qu'Hitchcock doit sa notoriété actuelle à la reconnaissance qu'il a eue en Europe et en particulier en France avec la Nouvelle Vague. C'est vrai pour les bandes dessinées.
Et ça veut dire aussi qu'il y a, parce que une des approches que l'on pourrait avoir, Jean-Pierre Mercier, autour de cette question de l'histoire de la bande dessinée, c'est une approche de soft power, d'une certaine façon. C'est dire, voilà, comme les Américains ont voulu s'imposer sur le marché du cinéma et exporter leurs idées de liberté, de démocratie à l'américaine dans des pays qui étaient très proches de la guerre froide, donc, et qui pouvaient se réchauffer à un moment ou à un autre dans les années 50 ou 60. C'est la même chose pour la bande dessinée, c'est-à-dire on pense en termes de lutte pour l'hégémonie culturelle. Vous pensez plutôt en termes de mélange, de métissage, de capacité de reprendre aux uns ce qui va permettre aux autres de faire une meilleure bande dessinée, en l'occurrence ?
Ben, je pense que cette idée de métissage, elle est extrêmement juste. Je pense qu'on a subi... Alors, quand on parle de l'influence de la bande dessinée américaine, il ne faut pas oublier en France, par exemple, tout l'anti-américanisme absolument féroce qu'il y avait dans les années 40 et 50. Par exemple, la première traduction de Seduction of the Innocent de Frédéric Vertam, qui est un brûlot anti-BD qui a été, par un psychiatre, qui a été fait aux États-Unis dans les années 50. Première traduction, c'est dans les temps modernes. Hein. Donc là, il y avait un anti-américanisme de gauche, enfin, à l'époque très proche des communistes.
Qui d'ailleurs a permis le vote de la loi de 1949.
Absolument, qui est une loi très protectionniste. Enfin, il y a plusieurs couches d'analyse concernant cette loi, mais il y a cette dimension-là. Mais il y a aussi le fait que pour les lecteurs et pour une partie des auteurs, je parlais de Poivet tout à l'heure, ou Forrest, enfin, ou Giraud, Moebius en l'occurrence, tous ces gens-là ont été absolument fascinés par cette bande dessinée. Mais l'idée du soft power, c'est une idée, je pense qu'elle existe dans le... Je crois que la bande dessinée pour les Américains, elle était, comme ils disent, sous le radar. Elle n'était pas très, très bien perçue comme quelque chose de potentiellement exploitable. C'est moins vrai pour le manga au Japon. L'expression soft power, elle a été inventée par et pour les Japonais par rapport à tout ça. Et le manga fait partie de ce soft power. Il suffit d'aller à la Japan Expo maintenant chaque année pour voir à quel point ça a été puissant. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un moment où le public local, autochtone, si je peux dire, enfin français ou européen, reprend tout ça et le transforme en fait quelque chose de personnel, de plus... Voilà, c'est vraiment un vrai métissage. Et donc c'est plus complexe, il me semble, que des rapports de force tout simples comme ça.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard en la société. Mais la société, faut pas s'en mêler, je suis un type à part. Une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier. Un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard. À graines d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard. à gueule d'ananas.
La graine d'ananas de Léo Ferré. Bonjour Chris, et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur, vous êtes scénariste de bande dessinée et vous êtes historien de formation, même si vous avez interrompu votre formation au niveau de la maîtrise. Vous étiez à l'université à Brest, en Bretagne. Et Brest est le cadre souvent préféré que vous donnez à vos scénarios, et en particulier avec des anarchistes, qu'ils soient des anarchistes allemands ou des anarchistes espagnols, qui peuplent vos scénarios de bande dessinée. Est-ce que c'est de la bande dessinée d'histoire que vous faites, Chris, quand vous faites vos œuvres avec Davodo, avec Maël, ou encore plus récemment, puisque ça vient tout juste de sortir, avec Cuvillier, en l'occurrence avec Nuit noire sur Brest?
Oui, ce sont des bandes dessinées d'histoire, mais à condition qu'elles aient toujours une résonance dans l'actualité. Ça m'intéresse pas trop de raconter juste une aventure, aussi palpitante soit-elle, si quelque part elle n'évoque pas des choses sur lesquelles on est en train de discuter ou qui font débat. Et c'est vrai que Nuit noire sur Brest, qui est sortie récemment, évoque l'exil des républicains espagnols, par exemple. Et lorsqu'on se penche dans les documents d'époque pour écrire une telle histoire, on se rend compte à quel point finalement, on retrouve les mêmes choses aujourd'hui avec les migrants syriens, toute proportion gardée, mais même pas tant que ça. On a la même façon de les accueillir, d'essayer de trouver des communes pour les recevoir. On a les mêmes personnes qui, évidemment, sont contre. Les traites, ce sont des terroristes, pas des barbus cette fois, mais des rouges. Ils ne parlent pas la langue, ils vont pas s'intégrer, enfin, etc., etc., et tout ça. Donc, c'est vrai que ça m'intéresse toujours, quand je tombe sur une histoire, dans l'histoire, comme ça, de me dire, bon, est-ce qu'aujourd'hui, elle a toujours du sens et elle porte toujours des valeurs qui sont importantes.
Comment fait-on pour justement trouver une histoire véridique? Parce que Nuit noire sur Brest, par exemple, c'est une histoire que vous avez retrouvée dans les archives. Pour la trouver, cette histoire, et se dire c'est un bon début de scénario pour une bande dessinée d'histoire, justement, Chris?
Alors, on le sait tout de suite. C'est tous les bandes dessinées que j'ai écrites, la plupart du temps, dès que je suis tombé sur cette histoire, j'ai su en 5 minutes que j'allais la traiter.
Donc l'histoire d'un sous-marin espagnol, donc récupéré par des républicains, qui arrive à Brest et qui est mis sous séquestre à Brest parce qu'on ne sait pas trop bien quoi en faire, et qui est devenu l'enjeu, pourrait-on dire, entre républicains et franquistes qui veulent le récupérer.
Oui, c'est Franco n'a pas de sous-marin en 1937, ce qui est important vu le blocus que ont mis en place les nations européenne autour de la guerre civile espagnole. Et tout simplement, alors c'est même pas Franco obligatoirement qui va donner l'ordre, hein, c'est plutôt un responsable qui s'appelle Troncoso des services secrets franquistes qui va décider de faire un coup, de s'emparer du sous-marin dans le port de Brest, qui est quand même le deuxième port militaire français, quand même 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale, et le ramener ce sous-marin en Espagne franquiste. Et il va pour ça monter un commando qu'on peut qualifier de barbouze avant l'heure, hein, mélange de franquistes espagnols et de militants d'extrême droite française, de la cagoule notamment. Évidemment, ça ne va pas se passer aussi simplement que prévu, puisque ce fameux commando a été infiltré par un espion anarchiste qui va lui-même prévenir les milieux militants brestois, qui eux-mêmes vont monter un contre-commando pour défendre le sous-marin. Donc quand vous tombez sur une histoire comme ça, et qui en plus est vraie, vous vous dites, non mais il faut absolument que je la raconte. Voilà. Et en général, après, les conditions se mettent en place pour que vous puissiez le faire.
Et puis, vous avez raconté dans Notre Mère la guerre, la Première Guerre mondiale, que vous poursuivez avec une entreprise, toujours avec votre compère Maël, qui s'appelle Notre Amérique, qui, quand on la voit, cette entreprise, on se dit, on est dans l'Amérique de Sacco et Vanzetti, de l'après-guerre, de l'après-première guerre mondiale, qui, avec des gens qui tentent de poursuivre un rêve et d'exporter d'une certaine façon leur rêve, justement, de révolution, leur rêve d'anarchie, etc., de l'autre côté de l'Atlantique pour pouvoir en faire quelque chose, alors qu'ils n'ont pas réussi à en faire quelque chose sur le territoire européen. Chris.
Oui, ça nous intéressait d'aller voir. On a pris un tel plaisir à raconter la Grande Guerre, mais en réalité la guerre en général, à travers Notre Mère la Guerre, que on n'a pas pu éviter de se poser la question. Et qu'advient-il réellement de ces personnages à l'issue de la Grande Guerre? Et donc on a imaginé ces personnages de jeunes soldats qui, eux, ont survécu, contrairement à nos personnages de Notre Mère la Guerre, et qui s'engagent en révolution pour qu'il n'y ait plus, évidemment, cette fameuse guerre, que ce soit la DDR, et qui vont découvrir une nouvelle forme de violence, qui est la violence révolutionnaire. Alors, à leur dépend, pas tout le temps, puisqu'ils portent un espoir, quand même, une cause, et si pour ça, il faut en passer par les armes à nouveau, eh bien, on les prendra, et puis après, il n'y aura plus jamais la guerre. On sait malheureusement ce qu'il en est advenu. connu. Mais c'est vrai qu'on va aller voir des théâtres historiques et révolutionnaires qui sont assez peu connus. C'est-à-dire, on ne va pas en URSS en 1918-19, on va au Mexique, qui est une autre forme de révolution.
Tierra y Libertad.
Tierra y Libertad, qui est une espèce d'idéal révolutionnaire pur et dur, et qu'on a découvert différemment, notamment à travers les écrits de John Reed, parce que on a une façon.
Celui qui avait écrit Les 10 jours qui embranlèrent le monde.
Les jours qui embranlèrent le monde, mais qui a écrit avant ça Le Mexique insurgé, et qui est un de ses premiers reportages en pleine guerre civile mexicaine. Et c'est vrai que la façon de travailler dans notre mère la guerre ou notre Amérique est différente, c'est qu'on part de plein de personnages réels pour en fabriquer des personnages de fiction. Donc nos personnages sont une composante qui va mélanger John Reed, qui va mélanger des Jack London, qui va mélanger des Red Marut, pour ceux qui connaissent, révolutionnaires allemands qui sous plein de pseudonymes a agité l'Europe des années 20-30, puis les scénarios artistiques d'Hollywood notamment plus tard. Donc ce sont des personnages comme ça qui sont faciles sinon à mélanger.
Ça veut dire aussi que, on disait avec Jean-Pierre Mercier tout à l'heure, qu'il était difficile de définir les frontières d'un genre, qui s'appellerait la bande dessinée, et frontières géographiques et frontières chronologiques, pourrait-on dire, mais c'est très difficile aussi de définir les frontières de ce qui s'appellerait la bande dessinée d'histoire, puisque vous êtes dans un genre ou un sous-genre de la bande dessinée, en l'occurrence Chris, qui raconte des histoires de rois, des histoires de reines, des histoires de règnes en l'occurrence. Vous êtes dans un autre type qui raconte l'histoire de ceux qui n'ont pas d'histoire ou qui ne l'ont pas écrite eux-mêmes d'une certaine façon et qu'il faut redécouvrir par les archives des militants, des syndicalistes, des anarchistes qui ont laissé peu de traces dans les archives mais qui vous servent, vous, en tant que scénariste pour pouvoir construire des scénarios originaux et très, très intenses.
On écrit avec tout ce qu'on est. Voilà, c'est ce qu'il faut assumer en premier lieu. On raconte jamais aussi bien que ce qui est sur le pas de notre porte ou le milieu dans lequel vous avez grandi.
Grandi dans ce milieu-là.
J'ai grandi dans le milieu, on a parlé de Brest tout à l'heure, dans le milieu ouvrier, syndicaliste, brestois, voilà, pour le faire assez simple, et le milieu militaire, puisque Brest c'est la marine et c'est l'arsenal. Et c'est vrai que ces deux composantes-là se retrouvent dans la plupart de mes récits parce que je sais comment ces gens-là pensent, je sais comment ils réfléchissent, comment ils parlent, comment ils rêvent, comment ils pleurent, et c'est ce qui m'intéresse à raconter. Alors quand, évidemment, je croise des personnages réels ou des faits historiques qui sont... Alors c'était vraiment le cas d'Un homme est mort, hein, pour le coup, qui est la première
Avec Étienne Davodeau,
c'est la première bande dessinée, vraiment, dans ce principe-là que j'ai faite, qui est l'histoire d'un film disparu de René Vautier, tourné pendant les grandes grèves ouvrières à Brest.
Et en 1950.
Et cette histoire, elle est tellement porteuse de sens dans ce qui est... C'est presque une déclaration d'intention de ce que doit être aussi l'art, c'est-à-dire, effectivement... S'engager, c'est un grand mot, parce que s'engager à son clavier, à son bureau, c'est pas très compliqué, comme c'est pas très dangereux par rapport à ceux qui vont vraiment militer sur le terrain. Mais il faut une voix pour raconter l'histoire de ces gens-là, ça c'est sûr. Alors, j'aime pas trop le terme de bande dessinée militante ou autre, parce qu'on pourrait la croire décérébrée ou pas suffisamment critique envers elle-même ou envers les personnages qu'elle porte. En réalité, non. Ce qu'on fait, c'est porter un regard, mais surtout entrer en empathie complète avec les personnages dont on raconte le récit, et on veut que le lecteur, de la même façon que nous, accompagne, prenne ces personnages par la main et puis voilà, ne les lâche plus jusqu'au bout du récit.
Et ce lecteur, vous lui faites des clins d'œil, par exemple dans Nuit noire sur Brest, le personnage principal est pêcheur en eau trouble, mais il s'appelle aussi le crabe aux pinces noires.
Tout à fait, ouais. Oui, alors ça c'est les petits plaisirs ou historiques ou cinéphiles que vont voir seulement quelques initiés parfois.
Là c'est assez simple, le
oui,
crabe aux pinces noires.
Oui, celui-là, il y a bien pire. Ou alors parfois, là vous ne savez pas par exemple, mais l'autre personnage principal de ce récit, qui est un personnage imaginaire, secondaire, qui est un journaliste, qui s'appelle Stanislas ouais. Leroy, une sorte de Rouletabille brestois,
absolument.
Est totalement inspiré d'un vrai personnage de journaliste brestois dont le nom est Stephen Leroy, et qui justement lui-même a une façon de raconter avec sa gouaille un Brest très actuel pour le coup, et c'est un personnage qu'on ne pouvait pas s'empêcher de mettre dedans dès lors qu'on parle de Brest. Alors ça ne parlera qu'au Brestois, le personnage tient tout seul autrement, mais ce sont les petits plaisirs de l'auteur, ça.
Et quelles sont justement les lectures de celui qui allait devenir un scénariste comme vous de bande dessinée d'histoire, donc Chris, et qui lui ont permis de comprendre qu'il y avait des possibilités justement dans ce domaine de la bande dessinée d'histoire qui était offerte par des grands anciens que vous avez non pas copié, mais dont vous vous êtes inspiré.
Oui, là, on peut vraiment dire, les lectures sont extrêmement importantes. Elles ont démarré très tôt parce que j'avais la chance d'avoir une bibliothèque juste à la sortie de l'école où on devait aller à chaque fin de journée puisque ma mère voulait absolument qu'on lisait. Je prenais des bandes dessinées évidemment tous les jours. Principalement, c'était Alix et les Tuniques Bleues tout au départ, donc assez classique, donc, vers 6, 7, 8 ans. Mais
Jacques Martin et Alix.
Voilà, et puis grande série, même les Tuniques Bleues ont été longtemps vraiment J'ai toujours une vraie Madeleine de Proust d'ailleurs pour ces albums-là. Mais on va dire la première, premier vrai choc, à côté de Blueberry, puisque Blueberry a été évidemment très important. Mais quand j'avais 9 ans, j'ai eu une tante qui a eu la bonne idée de m'offrir un Comanche.
De Herman.
Et c'était Et le diable hurla de joie. Et la couverture était très particulière, une espèce de diable dans des flammes. Et ça racontait l'histoire d'un agent d'assurance qui vient enquêter en plein Far West sur d'étranges incendies de fermes, en réalité pour toucher justement l'argent des assurances. Alors voyez, on est quand même très éloigné de John Wayne et des Cavaliers, qui était pour moi ma référence en termes de western, etc. Et le dessin d'Herman était aussi très agressif, entre guillemets, pour
et,
un gamin.
Et suggestif aussi.
Et suggestif également. Et donc la bande dessinée, je l'ai laissée de côté pendant 2 ans, me disant, bon, qu'est-ce qu'elle m'a offert là, ma tati, c'est un peu, voilà. Et puis à 11 ans, je suis tombé sur un autre Comanche qui était Désert sans lumière. Et Désert sans lumière, pour moi, est un des très grands albums de bande dessinée. Et ce que j'y ai trouvé en termes de scénario, notamment, qui raconte l'histoire d'une espèce de bande infernale, on va dire, qui va mettre à sac une ville et qui va être défendue par ce personnage de Louette Deuss, qui est le personnage de Comanche. Mais ce que j'aime dans Comanche, c'est impitoyable 20 ans avant l'heure. C'est-à-dire que c'est un Far West qui est extrêmement réaliste, qui est pas du tout glorieux, qui est vraiment de la vie quotidienne d'une pauvre ferme un peu perdue au beau milieu du Far West, et qui la frontière avance, voilà, petit à petit, et ce personnage de Rest Dust qui est un des derniers cow-boys, on va dire, va devoir reculer au fur et à mesure avec cette frontière et malgré tout avoir un itinéraire qui est empreint d'une violence encore très sauvage, notamment avec les frères Dobbs, qui sont une bande de malfrats qu'il poursuit d'album en album. Mais son personnage vieillit, son personnage est soumis.
Comme Blueberry d'ailleurs.
Oui, comme Blueberry, mais il y a une volonté de réalisme qui est poussée extrêmement loin chez Herman et qui en plus regarde toujours ses personnages. Il n'y a pas de héros. Vraiment, même Louette Deuss lui-même est en permanence soumis à sa propre violence. Et c'est vraiment pour moi un des premiers personnages qui va très très loin dans la façon de mettre en scène le récit historique.
Mais vous citiez Chris impitoyable d'Eastwood, mais en l'occurrence vos références sont, et c'est là où les deux arts sont mêlés, sont aussi des références cinématographiques qui remontent aux années 70.
La bande dessinée, c'est un art de la cambriole. On pique partout. Voilà, c'est le grand bonheur de la bande dessinée, c'est qu'on va piquer à la photo, on va piquer au cinéma, on va piquer à la littérature, on va piquer au théâtre également, évidemment à la peinture. Et avec tout ça, le dessin et le scénario, on va en faire la bande dessinée. Et c'est vrai que aller dans un festival de bande dessinée, écouter parler les auteurs, vous allez entendre parler de tout. Vous allez dans un festival de cinéma, vous allez entendre parler de cinéphilie avant tout. Vous allez dans un festival littéraire, alors là, clairement, on va parler avant tout littérature. J'entends jamais un romancier citer un film pour avoir inspiré son roman. Une bande dessinée, j'ose même pas y penser. Alors que dans la bande dessinée, il y a cette richesse-là. Et c'est vrai que c'est...
Parce que c'est un art qui s'est légitimé relativement tardivement et que d'une certaine façon, il n'a pas peur de dire qu'il a des racines qui sont extérieures à son propre parcours.
Pas seulement. Tout à l'heure, Jean-Pierre Mercier évoquait le métissage. La bande dessinée est par nature cet art métissé, encore une fois, qui prend partout et qui aussi, géographiquement, effectivement, va aller... Alors en France, on est les rois pour ça. On va aller piquer au Japon, on va piquer aux Ricains, on va aller en Amérique du Sud, on va aller dans l'Europe du Nord, on va aller en Afrique. Et c'est vrai qu'il y a ce... Aller dans les travées d'Angoulême, encore une fois, ça parle toutes les langues. Il y a ce plaisir-là de l'échange et du métissage pour faire la bande dessinée qui, aujourd'hui, atteint des sommets. Enfin, vraiment, on voit le nombre de styles graphiques, de styles de récits différents. Quand Moss est arrivé, comment parler de la Shoah, de Spiegelman, qui est consacré à la Shoah, où les personnages sont des petites souris et les nazis sont des chats. Comment on n'a jamais réussi à parler aussi bien de la Shoah, et pourtant il n'y a aucune image d'horreur ou sale ou autre. C'est étonnant parce que dans la même période, on voit Tardy arriver, qui pousse le réalisme sur la guerre des tranchées extrêmement loin. Donc à montrer les boyaux, des choses qu'on n'oserait même pas montrer au cinéma à ce moment-là. Et puis Moss, qui dans un style naïf, va évoquer également l'horreur. Et ces deux récits historiques, là... pour moi, vont être une influence primordiale pour nous montrer qu'en réalité, faire du réalisme pur et dur en bande dessinée, c'est juste singer la photo, ça n'a pas obligatoirement un intérêt. L'intérêt, il est justement d'utiliser le dessin sous toutes ses formes, d'utiliser l'écriture sous toutes ses formes, ou le silence sous toutes ses formes. La photo, on a vu avec Guibert.
Emmanuel Guibert.
Emmanuel Guibert, qui est mélangé dans le photographe, photo et bande dessinée. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, la bande dessinée, elle se permet tout, et c'est assez jouissif d'en être un des auteurs.
Et quand on est scénariste de bande dessinée, on se permet tout aussi, dans le sens où on peut se permettre un album qui soit une sorte de one-shot unique, un album unique, et puis on peut se permettent aussi des séries. Est-ce que notre Amérique qui sort, ça va être comme Notre Mère la Guerre, c'est parti pour une série de quatre comme a été Notre Mère la Guerre?
Oui, parce qu'on se permet l'improvisation. C'est pas un budget lourd de faire la bande dessinée, hein. faut le savoir par rapport
c'est lourd pour le dessinateur. Vous êtes scénariste, parce qu'il faut quand même du temps pour
pouvoir faire. Mais je parle de logistique financière.
Bien sûr.
Au cinéma, on est obligé d'écrire tout avant. On est obligé de prévoir quand même énormément combien ça va nous coûter. Nous, en bande dessinée, pas du tout. On peut se dire, au fil des albums, Notre Mère la Guerre était prévue en deux albums. Au milieu du tome 1, on a décidé qu'on allait en faire deux avec ce tome 1. Donc ça donnait trois. Et puis entre le 2 et le 3, on a décidé de rajouter un quatrième. Et tout ça est quand même relativement souple. Et notre Amérique part en réalité, aujourd'hui, dans la vraie ambition qu'on a avec Maëlle, on peut commencer à en parler, c'est de faire une sorte d'histoire de la violence au XXe siècle, qui est donc la guerre d'abord à travers Notre Mère la Guerre, la révolution à travers notre Amérique qui va traverser tous les années 20-30, mais également devant l'échec des révolutions d'extrême gauche. Un certain nombre de déçus passent aux révolutions d'extrême droite, hein, c'est l'histoire du nazisme en partie. Un de nos personnages va connaître cet itinéraire-là. Et on ira sans doute ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, voir l'histoire de la contre-violence, cette fois, à travers les mouvements hippies, beatniks, d'opposition à la guerre du Vietnam également, pour rebasculer dans une dernière, quatrième et dernière série, qui là évoquerait comment ces mouvements de contre-violence ont fini pour certains par basculer à nouveau dans le terrorisme, qui est celui d'extrême gauche des années de plomb, d'action directe en France, jusqu'au terrorisme islamiste, jusqu'en 2001. Notre ambition, c'est ça.
Mais voilà. Quelle ambition?
Oui, mais en final, quand on regarde, ça va donner, ça nous occupe 15 ou 20 ans. Ça va fonctionner par diptyque ou quatre séries en tout. Quand Étienne Davoudeau, pour parler d'un auteur avec qui j'ai travaillé, a fait sa première bande dessinée documentaire, c'était Rural, c'était 2001. On est en 2016, ça fait 15 ans. Il a publié un certain nombre d'albums qui ont construit une œuvre. L'intérêt, c'est ça, quand on est auteur, à côté de plein d'albums où on peut se faire plaisir, c'est aussi quand même d'essayer de bâtir quelque chose, de creuser un sillon, faut pas en avoir peur, de construire une œuvre. Et c'est vrai qu'en termes de récit historique, avec Maëlle, on a vraiment cette ambition-là de travailler des personnages d'une certaine façon, d'être vraiment plus proche d'eux et de voir cette espèce de grande saga qui raconterait le XXe siècle, parce que c'est celui dans lequel on est né et celui qui nous fascine.
Ouais, Jean-Pierre Mercier, tout de même croisé, comme vous le faites régulièrement pour vos travaux, donc au Centre international de bande dessinée à Angoulême, pour des expositions, pour des livres, etc. Des auteurs comme Chris, qui à la fois rendent tribut à ceux qui les ont aidés à devenir ce qu'ils sont, mais aussi qui ont une véritable ambition. Vous disiez tout à l'heure, ce qui va arriver, c'est formidable du côté des historiens de la bande dessinée, mais ce qui arrive aussi, c'est formidable dans la variété de ce qui est proposé par les auteurs eux-mêmes.
Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Chris, en particulier sur le... Je rebondis juste sur ce qu'il dit sur l'incroyable... c'est pas de l'anthropophagie, mais l'incroyable gourmandise de tous les auteurs dans tout, surtout. Moi, effectivement, on se retrouve à discuter de sujets complètement incroyables.
Et c'est-à-dire que les auteurs de bande dessinée se nourrissent de tous les autres arts.
De tout, de radio, de télé, de littérature. Effectivement, moi, on a des discussions de temps en temps sur des auteurs de littérature avec des auteurs de bande dessinée. C'est un plaisir incroyable. C'est un plaisir incroyable. Et pour ce qui est de la période actuelle, il y a une période historique qui est avant la guerre, que les Américains appellent l'âge d'or, le Golden Age, Flash Gordon, Prince Vaillant, toutes ces choses-là.
Ah bah oui, c'est l'invention des super-héros,
voilà. Rip Kirby. Moi, je dis que l'âge d'or, c'est maintenant. Parce qu'il y a une quantité de trucs historiques qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre aujourd'hui, et il y a une production actuelle. En France, en particulier, on peut lire de la bande dessinée japonaise, coréenne, sud-américaine, américaine, européenne, de tous les bouts, de partout. Il y a des traductions dans tous les coins. Et il y a une quantité d'auteurs. Alors, la contrepartie un peu problématique, c'est effectivement la crise qui touche les auteurs, parce qu'il y a une paupérisation, parce qu'il y a de plus en plus de titres et le marché pas extensible à l'infini. Mais en tant que lecteur, si on a un peu de curiosité, c'est un plaisir incroyable, c'est un plaisir incroyable.
Et sans tomber dans la nostalgie, il fut un autre âge d'or, c'est celui des années 70 avec l'explosion des revues de bande dessinée en France et en particulier de Pilote. Ça sera le thème demain du documentaire que nous proposent Victor Massé de l'Épinay et Séverine Cassard. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Spirou, Tintin, Mickey, Vaillant. Non, je crois que Vaillant, ça s'appelait Pif. Bon, tout ça, c'était une presse très jeune lecteur. Alors que Pilote a eu cette extraordinaire faculté de vieillir avec ses lecteurs. Et les gens continuaient, commençaient à être mariés, éventuellement ramenaient quand même le Pilote de leur jeunesse dans le foyer où le gamin allait apprendre à lire dans les bandes dessinées que papa aimait bien.
Voilà, ouais, puis moi j'ai grandi aussi avec ce journal, puisque je l'ai acheté, j'avais 10 ans, et j'y suis entré à 20 et... Et j'y suis resté jusqu'à la fin, jusqu'au dernier numéro. Ne me demandez pas la date, je ne me souviens plus.
Goscinny m'a dit, mais venez à vos réunions si ça vous intéresse, du dessin humoristique, mais peut-être que vous pouvez essayer. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai participé pendant une période à ces réunions, c'est là que j'ai rencontré la plupart de tous ces dessinateurs. C'était drôle parce que c'était une espèce de foutoir où parfois une idée sortait, on ne savait plus qui l'avait dit. À la fin, on disait, mais qui a lancé cette idée-là? Bon, ok, c'est toi, tu veux faire le truc. Je dis, d'accord, ouais, je préfère pas, ou si quelqu'un veut le faire. Donc il y avait comme ça une forme de conscience collective qui marchait bien.
Et vous voyez Goscinny?
Il vous voyait tout le monde.
Goscinny, c'était ce grand libéral de patron de presse, quoi, c'est-à-dire faites ce que vous avez envie de faire.
Il y avait un esprit de déconnade à Pilote à cette époque-là qui était vraiment un truc formidable et qui était très encouragé par Goscinny parce qu'il avait en permanence l'œil qui frisait. Moi, j'aimais beaucoup cet homme-là, vraiment. Il était propre sur lui, la cravate tirée à quatre épingles, etc. Mais il n'en pensait pas moins. Et sous son apparence lisse, bourgeoise, rangée, habitant Neuilly, etc., il était très motivant. On avait envie pour lui d'écrire des conneries.
Voilà un extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain sur le journal Pilote, numéro 595, avril 71, puisque l'idée de Victor Massé-Lépinay et de Séverine Cassard, c'est de décortiquer un numéro du journal Pilote, ce numéro 595, quand Pilote éclatait les bulles en avril 71, mercredi, et nous promènerons avec Victor Massé-Lépinay dans l'exposition Hergé du Grand Palais, qui est ouverte jusqu'au 15 janvier 2017 à Paris, et jeudi, nous reparlerons de bandes dessinées d'histoire avec Adrien Genoudet, Philippe Delisle ou encore Pauline Ducret. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous Jean-Pierre Mercier.
Merci beaucoup.
Et merci à vous Chris d'être venu à ce micro donc pour parler de votre travail de scénariste de bande dessinée. Je rappelle qu'on peut lire La Nuit Noire sur Brest qui vient tout juste de sortir chez Futuropolis, 1737, La Guerre d'Espagne s'invite en Bretagne et surtout pour tous ceux qui ont aimé Notre Mère la Guerre, la suite. Ça s'appelle donc Notre Amérique, avec cette ambition incroyable que vous avez avec Maël de raconter les violences du XXe siècle, toujours chez Futuropolis. Et puis, pour vous, Jean-Pierre Mercier, on peut lire avec bien d'autres, dont Pascal Horry, l'art de la bande dessinée chez Citadel et Masno.
Ça fait un super cadeau de Noël. Hein.
Ah oui, je confirme, je me suis offert.
Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Jean Frédérics nous a accompagnés à la technique ce matin et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet de France Culture. Et aussi, si vous voulez nous intéresser à la bande dessinée, n'hésitez pas ce soir à écouter à l'heure du feuilleton, donc à écouter eh bien le Lotus Bleu adapté pour la radio par France Culture. Quant au site de la Fabrique de l'Histoire, eh bien c'est fabrique sur le site, sur Facebook, eh bien vous pouvez aller donc sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, et si vous voulez aller nous suivre sur Twitter, eh bien c'est Fabrique FC, notre adresse. Quant au site de la Fabrique de l'Histoire, c'est comme tous les sites de France Culture, franceculture.fr.